Salut à tous. Bienvenue sur Bac FM. Bonjour tout le monde, on va parler d'un sujet très présent sur Internet, la désinformation.
Depuis quelques années, de plus en plus de fausses informations circulent sur les réseaux et peuvent influencer l'opinion publique.
Cette série d'émissions est réalisée par les premières Agora OTM du lycée Pro Jean Rostand.
Salut à tous et bienvenue sur Bac FM. Je suis Lana de la classe première Agora OTM. Aujourd'hui, on s'intéresse au complot.
J'ai vu une vidéo très intéressante sur les réseaux. Vous savez que Jean-Marie Le Pen n'est pas mort ?
Oui, vous avez bien entendu. Les suites d'Aquabeb ont aperçu la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, qui se rendait dans les catacombes de Paris. Elle a même été filmée.
Et quel est le rapport avec Jean-Marie Le Pen ?
En fait, elle rendait visite à Jean-Marie Le Pen qui se cachait dans les catacombes.
Apparemment, la guerre en Iran, c'est eux. Ils se seraient entendus avec Donald Trump.
Mais pourquoi ?
Pour attirer l'attention des gens sur autre chose que l'affaire Epstein, c'est évident. La preuve, c'est qu'ils ont tous les trois visité la Floride entre 2008 et 2015.
C'est encore un complot, ça.
Ilias, la désinformation ne date pas d'hier, je crois.
Et non, ils sont nombreux les complots dans l'histoire, comme par exemple Jacques l'Éventreur qui ferait partie de la famille royale, ou Elvis Presley qui ne serait pas mort, ou encore plus ancien le pôtre Cole des sages de Sion. La théorie de la Terre plate, l'assassinat de JFK, le complot de la pandémie de la grippe espagnole, et bien sûr les Illuminati, une sorte de théorie conspirationniste anti-maçonnique qui vient d'Allemagne.
Et c'est sur la Lune ?
Sur le complot de 1969, les partisans du complot soutiennent que les États-Unis auraient simulé l'alunissage pour donner un coup de pouce à leur prestige mondial. Ils citent des détails comme le drapeau qui flotte, alors qu'il n'y aurait pas d'air sur la Lune ou des anomalies dans les ombres qu'ils comparent à des effets de studio. En réponse, la NASA a publié des milliers de documents, des vidéos. Chaque argument du complot a été pour la plupart démonté par des experts en physique, en ingénierie et analyse en images. Mais certains y croient encore.
Et en France, on a des complots connus dans l'histoire ?
Oui, bien sûr, comme l'affaire Dreyfus. Le capitaine Dreyfus était un officier de l'armée française. Il a été accusé d'espionnage pour l'Empire allemand. Il a même été condamné au bagne. En fait, les militaires l'avaient accusé à tort car il était de confession juive et l'armée était très antisémite à cette époque. Et du coup, Alfred Dreyfus a fini par être innocenté et réhabilité grâce au combat de sa famille et de la prise de position de l'écrivain Émile Zola.
On retrouve tous les ingrédients du complot sur l'antisémitisme. Merci Ilyes. Sandra, Saloua et moi-même, Mariem, nous avons posé quelques questions à Thomas Huchon, qui est auteur, réalisateur et surtout journaliste spécialisé dans les fake news.
Bonjour Thomas Huchon et merci de répondre à nos questions.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des complots, pouvez-vous nous rappeler comment les reconnaître ?
Alors, moi je suis spécialiste des théories du complot et déjà on peut dire quelque chose qui est important, c'est que les vrais complots ça existe. C'est-à-dire que l'histoire, elle regorge de plein d'exemples où il y a eu des vrais complots qui ont été faits. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt les théories du complot, donc des faux complots. Donc des gens qui prétendent qu'il y aurait eu des complots, alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est tous ceux qui vont nous dire, par exemple, que on n'a pas marché sur la Lune, que la Terre est plate et qu'on nous fait croire qu'elle est ronde. C'est un peu toute cette espèce de mécanique-là. Et comment est-ce qu'on fait pour les repérer ? Très souvent, ils sont basés sur... des éléments un peu d'actualité dans lesquels il y a un tout petit bout de vrai et puis il y a beaucoup de faux. Il y a plein de choses sorties de leur contexte, il y a plein de choses qui sont extrapolées et souvent ça va avec une espèce de manière de raconter qui est un peu catastrophiste, de la musique qui fait peur, la voix off qui fait soi-disant sérieux. Voilà, en fait c'est une espèce de recette de cuisine en fait. Mais je crois qu'on connaît tous un peu cette recette de cuisine, parce que si on est obligé de dire quelque chose tous ensemble, c'est qu'on a tous à un moment ou à un autre fait un petit mytho dans notre vie. Donc en fait, on sait tous construire un mensonge. Et bien les théories du complot, c'est des mensonges qui parlent d'actualité.
Pensez-vous qu'il existe des complots sur l'Europe ?
D'ailleurs, pour tout un tas de gens, la création de l'Union européenne, c'est en réalité un complot de la CIA. Il y a plein de gens qui disent que les pères fondateurs de l'Europe sont en fait des agents de la CIA qui ont fait un truc pour empêcher les pays d'être comme ils voulaient être et les obliger à suivre les règles de l'Union européenne. Tout ça, c'est pas vrai, bien entendu, mais ça marche souvent auprès de ceux qui aiment pas trop l'Union européenne. Ils ont envie d'entendre que l'Union européenne, ça serait une organisation faite pour nous manipuler. Ça, c'est un des exemples qu'il y a sur l'Europe, quoi.
À votre avis, est-ce que l'affaire Epstein relève du complot ?
Alors, l'affaire Epstein, c'est un truc qui est assez particulier, parce que c'est un vrai complot, de Jeffrey Epstein.
Oui.
C'est l'histoire d'un mec qui a décidé de gagner de l'argent souvent en trichant et en faisant des arnaques au droit fiscal et de l'évasion fiscale, qui a menti pour le faire et en plus qui a corrompu des personnes de pouvoir pour pouvoir faire des actes sexuels absolument scandaleux et criminels. Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui dirigent notre monde sont dans le secret d'odieux pédophiles dégueulasses? Je crois pas. Et en fait, c'est ça la différence entre le vrai complot et la vraie affaire Epstein et la théorie du complot autour d'Epstein qui voudrait nous faire croire que tous les chefs d'État se retrouvent dans des soirées secrètes pour boire de l'adrénochrome, c'est-à-dire du sang d'enfant, dans des crânes. Ça, c'est pas vrai. Donc, comme dans toutes les affaires qui touchent à l'actualité, il y a une interprétation complotiste, et puis il y a la réalité. Dans cette histoire-là, ce qui est embêtant, c'est que, d'une certaine manière, ça colle un petit peu au narratif des complotistes. Mais l'affaire Epstein, c'est une vraie affaire, d'un vrai mec qui a vraiment voulu, et qui a fait, des crimes sexuels abominables et des crimes financiers très graves, et qui s'est protégé pour le faire, et qui a créé un réseau pour le protéger autour de lui sur ces sujets-là.
Y a-t-il un risque de voir l'antisémitisme augmenter à cause de cette affaire ?
Il se trouve que dans l'univers des théories du complot, l'antisémitisme, c'est un élément qui est extrêmement présent. Pour une raison qui tient à la nature profonde de ce qu'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est des gens qui pensent que les Juifs dirigent le monde en secret. Et qu'ils font des tas de coups tordus pour diriger le monde en secret. Donc, dès qu'on touche un peu au complotisme en général, ça colle au narratif, et donc souvent les complotistes mettent des Juifs un peu partout. Là, dans l'affaire Epstein, effectivement, on a vu ressortir tout un tas de propos et de trucs antisémites autour de l'affaire Epstein, parce que les antisémites cherchent en permanence à trouver des éléments qui leur permettent de défendre leur idéologie. Et donc là, Epstein, c'est un juif qui fait des malversations financières et en plus des crimes sexuels. C'est un peu la recette, le cocktail magique pour un complotiste qui voudrait expliquer que les juifs font que des saloperies dégueulasses cachées dans l'ombre. Donc oui, ça l'a fait remonter, ça l'a fait ressortir de manière très forte et c'est fort probable que ça ne s'arrête pas.
Pourquoi les théories du complot attirent-elles autant de personnes ?
C'est à la fois difficile à dire et en même temps, il y a des facteurs assez simples. Le premier, c'est que ça parle souvent de sujets qui nous font peur. Ça parle de sujets qui sont des sujets graves. Ça parle de la manière dont le monde fonctionne, ça parle de guerre, ça parle de politique, ça parle de maladies, de vaccination. Donc c'est des sujets sur lesquels, souvent, on a un problème et on n'a pas de solution. Et le complotisme, ça simplifie les choses en disant, en fait, ton problème, c'est parce qu'il y a un grand méchant que tu connais pas. Et si tu t'attaques à ce grand méchant, en fait, t'as plus de problème. Donc ça a une espèce de double vertu. D'une part, ça va amener les gens à comprendre un problème et mieux encore, à trouver une solution. Quand vous êtes face à un sujet très compliqué, comme la guerre ou une pandémie mondiale, et que vous avez d'un côté des journalistes sérieux, des politiques et tout, qui vous disent c'est compliqué, on va voir ce qu'on peut faire et on va essayer de trouver des solutions, et quelqu'un qui dit en fait le Covid c'est facile, c'est Bill Gates qui a créé ça parce qu'il veut diminuer de moitié la population mondiale et qu'il veut tuer des gens, c'est facile. Non seulement t'as tout compris, tu sais que c'est Bill Gates le salopard, mais en plus t'as la solution. T'as qu'à buter Bill Gates et il n'y a plus de problème. Du coup le complotisme ça devient vachement tentant parce que c'est vachement facile, c'est vachement simple. C'est une explication simple d'un problème compliqué, avec en plus une solution à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. En général, ces deux éléments mis bout à bout, ça a des conséquences terribles.
Je me permets une question. Moi, j'aimerais savoir d'où vient cette espèce de montée de théorie du complot. On a vu qu'avec Twitter, notamment le réseau qui appartient au milliardaire Elon Musk, il y avait une sorte de montée par l'algorithme de propos haineux.
Ouais.
La montée de l'extrême droite en Europe et aux États-Unis, je pense là au mouvement QAnon. Est-ce que cette montée de l'extrême droite dans le monde et qui plus est en Europe favorise cette espèce de climat propice pour les complots ?
En réalité, c'est un peu la question qu'on s'était posée au moment de Trump. Moi, je fais partie d'une petite bande de journalistes, et on n'est pas très nombreux sur la planète, à avoir dit... Alors moi, c'était en septembre 2016, donc quelques mois avant sa première victoire. Attention, Trump peut gagner. Et tout le monde m'avait pris pour un fou. Mais pourquoi est-ce qu'on pensait que Trump pouvait gagner? Bah parce que justement, en utilisant la rhétorique des complotistes, eh bah il parlait à des gens qui traditionnellement sont abstentionnistes et qui vont pas voter. Et en arrivant à mobiliser ces gens qui vont pas voter, eh bah on arrive à faire la différence dans une élection très serrée et très compliquée comme l'élection américaine. Donc moi, ce qu'on constate, c'est que depuis 25 ans et l'avènement d'Internet, les théories du complot, les fake news, et les propos racistes, antisémites, xénophobes, misogynes, islamophobes, et j'en passe, et des meilleurs, ont trouvé un endroit où ils pouvaient se diffuser et où il y a une énorme caisse de résonance qui est amplifiée par les algorithmes. C'était le cas sur YouTube, c'était le cas sur Facebook, c'est le cas sur X, c'est le cas sur TikTok aujourd'hui. En fait, c'est un peu petit de l'œuf ou la poule, votre question. En gros, est-ce que, parce qu'il y a sur Internet des théories du complot qui se diffusent, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui les utilisent pour gagner les élections? Ou est-ce que, en fait, c'est ces hommes et ces femmes politiques ou ces mouvements politiques qui ont colonisé Internet et qui ont du coup permis aux théories du complot de prendre l'ascendant sur la population? Eh ben, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais que on peut pas séparer aujourd'hui une machine de propagande comme Twitter de la victoire de Trump. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre que les deux phénomènes sont un peu concomitants et en même temps, ils se renforcent l'un et l'autre. C'est-à-dire que plus vous avez des gens qui expliquent que les théories du complot sont vraies, plus les hommes politiques qui voudraient défendre ces idées vont le faire parce qu'ils ont un avantage, un intérêt à le faire d'un point de vue électoral.
Quel élément alimente les théories du complot sur l'affaire Epstein ?
Bah, sur l'affaire Epstein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a, comme dans toutes les affaires judiciaires, il y a plein d'endroits dans lesquels la justice n'arrive pas à faire totalement la lumière. Et bah, comme là, vous avez un mec puissant, très riche, qui a des connexions avec certaines personnalités politiques et qui en plus fait des crimes sexuels, bah, vous avez un peu la recette magique pour la théorie du complot. Et donc, comme on a du mal à faire la lumière sur cette affaire parce que ça prend très longtemps, et bah, toute cette période sur laquelle on a du mal à répondre aux questions légitimes des gens qui s'interrogent sur cette histoire, et bah, on donne du grain à moudre à ceux qui ont une réponse toute prête. C'est toujours un peu la même histoire. Et il y a un élément aussi qui est que, et bah, comme Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison, et ben ça amène plein de gens à se dire: ah mais attends, est-ce qu'il s'est vraiment suicidé, est-ce qu'il a pas été suicidé, est-ce qu'on l'a pas assassiné et tout, pour qu'il empêche qu'il puisse pas révéler tout ce qu'il devait révéler. Mais pour l'instant, les seuls éléments qu'on a, c'est qu'il s'est suicidé, et il y a un élément qui a peut-être pas été suffisamment donné dans les mois récents, c'est que 2 jours avant de se suicider en prison, il a réécrit son testament de Jeffrey Epstein. Donc, tous ceux qui pensent qu'il a été assassiné, ça serait quand même une coïncidence assez frappante qu'il ait été assassiné 2 jours après avoir été refaire son testament. À moins que celui qui l'ait assassiné, ça soit son notaire chez qui il a fait le testament, c'était difficile de savoir qu'il venait de refaire son testament et donc de l'assassiner. Le fait qu'il ait refait son testament, ça donne plutôt du grain à moudre à l'idée qu'il se soit suicidé. En gros, il a mis un peu d'ordre dans sa vie, et à la fin, il s'est suicidé parce qu'en fait, il n'arrivait plus à vivre avec tout ce qu'il avait fait, et qu'il voulait pas être condamné à ce qui se pressentait, c'est-à-dire des centaines d'années de prison aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, les années de prison sont cumulatives. Si vous tuez 10 personnes et que vous prenez 25 ans par meurtre, et ben vous prenez 250 ans de prison. C'est la magie américaine. Moi, j'ai bien entendu, comme tout le monde, je me dis, le mec a énormément d'informations sur des malversations financières, sur de la corruption, et il se suicide en prison, c'est bizarre. Oui, en même temps, d'une manière générale, les violeurs sont pas très très bien traités en prison par leurs codétenus. D'autre part, il a fait ce testament 2 jours avant de passer à l'acte au niveau du suicide. Et donc, il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens-là aussi. Pour l'instant, les éléments d'enquête nous disent que c'est un suicide, et donc on est obligé de dire que c'est un suicide. Si on a d'autres éléments plus tard qui nous permettent de changer d'avis, eh ben on changera d'avis. Faut pas avoir peur de changer d'avis dans la vie. Hein. Ouais. Au contraire, faut être capable d'écouter les arguments qui nous ont présentés. Aujourd'hui, les arguments, ils vont plutôt dans le sens de Jeffrey Epstein s'est suicidé, Si on a d'autres éléments demain, et ben on changera peut-être d'avis.
Il y a un point qui est peut-être important, c'est que ça rapporte aussi de faire du complotisme. Il y a des TikTok qui dépassent les milliers, voire les millions de vues aisément. Est-ce que c'est pas aussi une machine à cash de raconter n'importe quoi ?
Bah, souvent, on essaie de séparer les ambitions. C'est-à-dire, on dit, ah bah attends, lui, il fait ça pour avoir de l'influence. L'autre, il fait ça parce qu'il fait de la politique. Le troisième, il fait ça parce qu'il veut gagner de l'argent. En général, les êtres humains sont complexes. Et il y a plusieurs choses qui motivent nos comportements. Et ben moi je pense qu'il faut envisager l'idée qu'il y ait plusieurs motivations derrière le fait de diffuser ces choses-là, et que s'il y a plusieurs motivations, et ben potentiellement il y a plusieurs raisons aussi. Donc oui, il y a de l'argent, c'est sûr, et on gagne beaucoup d'argent. Si on prend le principal complotiste aux États-Unis, Alex Jones, le chiffre d'affaires réalisé par son média complotiste en 2015, 2016 et 2017, c'est 140 ou 150 millions de dollars sur les 3 années. C'est colossal. Il n'y a pas un média indépendant au monde qui fait un chiffre d'affaires de cet ordre-là. Donc oui, il y a beaucoup d'argent. Et en même temps, il y a aussi une volonté d'influence. Il y a aussi une volonté d'exister d'un point de vue plus personnel, d'être reconnu, d'être apprécié, d'avoir des followers, des fans, des gens qui vous écoutent. Mais je ne pense pas qu'il faille séparer les motivations. Je crois que ces motivations, elles sont totalement additionnables d'une certaine manière.
Ok, et il y a une rumeur récente qui affirme que l'intervention américaine en Iran serait liée au rapport, aux relations entre Trump et Epstein.
C'est déjà ce qu'on avait dit de l'arrestation de Nicolas Maduro au début du mois de janvier, qui était le président vénézuélien, qui a été arrêté dans une opération assez rocambolesque menée par les services de sécurité américains au Venezuela, sans respecter totalement le droit international. Là, le problème, vous voyez, c'est qu'on a un personnage qui est Donald Trump, dont on ne sait pas du tout ni pourquoi, ni comment il fait les choses, ni pourquoi, ni comment il dit les choses. Et donc, on est un peu dans une zone grise. Imaginez que ça soit la seule raison pour laquelle il déclenche la guerre en Iran. Ça me semble être un peu présomptueux, mais encore une fois, les êtres humains sont complexes. Ils ont parfois plusieurs explications. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on fait telle ou telle chose. Est-ce qu'à un moment... Avec un personnage comme Trump, on peut pas imaginer que, vu que l'affaire Epstein va être révélée au grand jour, qu'il est la personne la plus citée du dossier et qu'il a pas envie qu'on s'en rende compte, est-ce qu'il ne crée pas une zone d'information parallèle avec la guerre, donc on ne parle plus de ses affaires judiciaires? Écoutez, c'est possible, c'est ce qu'on conseillait, son conseiller politique, qui s'appelle Steve Bannon, qui disait ça, qui disait que quand t'es confronté à un problème, il faut inonder la zone de merde, flood the zone with shit. C'est vraiment le terme qu'il utilise. Et donc, effectivement, ça fait un peu penser à ça, à l'idée de noyer le poisson sous un autre sujet. Avec le problème que nous pose Trump, c'est que comme il respecte aucune des règles à la fois écrites et non écrites de l'éthique et de la pratique de la politique, c'est très difficile pour nous de juger de ses comportements sans imaginer systématiquement le pire. On est un peu obligé d'imaginer le pire avec un personnage qui dit pas toujours la vérité. Selon les instituts de fact-checking, Trump, c'est 3% de propos vrais durant l'année 2024. 97% du temps, il dit des conneries. Malheureusement, ça plaide un petit peu dans le sens de votre question.
Comment faites-vous pour vérifier si l'info est fiable ou manipulée?
C'est encore une fois, je pense que c'est à la fois simple et à la fois très compliqué. En gros... Moi je m'informe avec des médias que j'ai choisis depuis des années parce que ils m'informent correctement, qui sont transparents sur la manière de travailler. Et après, quand je vois passer quelque chose qui vient pas d'un média, j'essaye de vérifier cette information en me posant un certain nombre de questions. Qui me parle? Qui est le gars qui tient la chaîne YouTube, la chaîne TikTok? De quand ça date? Quelles sont les sources mises à ma disposition pour juger de la fiabilité de l'information? Et j'essaie de recouper et de contextualiser l'information. On va prendre un cas très récent qui va vous intéresser. On a eu des vidéos qui ont circulé de soi-disant de qui disaient que Benjamin Netanyahou était mort. Si l'info sort sur TikTok et que pendant 48 heures, personne n'en parle à part deux chaînes sur TikTok, c'est un signe. Vous imaginez bien que si le Premier ministre israélien est mort, vous imaginez bien que tout le monde va en parler. Oui. Si personne n'en parle, ça plaide plutôt dans le sens que l'info est pas vraie. Oui. Vous voyez, c'est un peu ce qu'il faut bien comprendre. Vous voyez ce que c'est un trépied? Un trépied, ça a 3 pieds pour tenir une caméra. Si vous enlevez un pied, C'est tout le truc qui se casse la figure. Mmh. Et bien en fait, le raisonnement pour vérifier une info, ça fonctionne comme un trépied. Il y a plusieurs questions à se poser. Mais si vous oubliez une question, c'est tout votre raisonnement qui peut devenir caduc. Ça veut dire qu'il faut se poser plusieurs questions et il faut avoir la réponse à plusieurs questions pour pouvoir vérifier. Si vous savez qui vous parle, que vous savez de quand ça date, mais que vous n'avez pas la source des infos, eh ben franchement, il y a un piège. Il y a une vraie chance qu'il y ait un piège. Donc essayez de réfléchir comme ça, comme une espèce de succession de questions qui vous permettent de répondre. La vraie réponse, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile, elle est compliquée, mais finalement, c'est pas très grave. Vous êtes des jeunes très intelligents, avec un cerveau qui fonctionne super bien. Et donc, je suis sûr que vous allez être capable de mettre en place ce petit cheminement de questions pour vérifier des infos.
Merci.
Maintenant que vous savez comment vous protéger des fake news, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. C'était les élèves de première Agora OTM du Jean Rostand sur Bac FM.
À bientôt.
À bientôt.